France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Avec pour slogan « On ne peut pas vivre sans un livre dans sa poche », la collection du livre de poche fut lancée par Henri Filipacchi en 1953 pour la Librairie Générale de France, filiale d'Hachette Livre. 8 millions d'exemplaires vendus à la fin des années 50, 28 millions 10 ans plus tard, au-delà du bouleversement dans le monde de l'édition, ce fut un véritable phénomène de société. J'ai lu, Presse Pocket, Folio, les autres éditeurs suivront le mouvement au fil des années. Si Jean Giono voyait en lui le plus puissant instrument de la culture et de la civilisation moderne, le livre de poche était, au milieu des années 60, l'objet de débats et de polémiques dans les milieux intellectuels. Fin de la culture comme privilège pour certains, culture de poche transformant le lecteur en consommateur pour les autres, c'est ainsi que l'on pourrait schématiser les affrontements d'alors. Réunissant critiques et directeurs de collection, l'enquête sur le livre de poche, proposée sur France Culture en 1965 par la Semaine littéraire, illustre ce que pouvaient être les débats autour de cette question.
La Semaine littéraire, magazine de l'actualité, romans et poésie, une émission de Roger Vrigny. Avec la collaboration aujourd'hui de Alain Bosquet, Luc Estan, Bernard Pivot et la participation de Pierre Buge, Georges Charbonnier, François Herval, Michel-Claude Jallard, Jean-François Revel, Claude Sohala et Léon Nora. Réalisation Georges Gravier. Enquête sur le livre de poche.
Nous inaugurons ce soir les enquêtes de la Semaine littéraire consacrées une fois ou deux par trimestre à de grands sujets d'actualité. Nous l'inaugurons par une enquête sur le livre de poche qui nous fournira toute la matière de notre numéro. Le livre de poche, c'est un sujet d'actualité et je dirais, pour ma part, d'actualité que je juge brûlante. Parce qu'il n'est pas seulement un phénomène sociologique qui remet en cause les données traditionnelles, disons, de la culture ou de la vulgarisation des idées et des textes, mais tout d'abord et tout simplement parce qu'il bouleverse les données traditionnelles de l'édition. Je ne prendrai, si vous voulez, que deux exemples. Il est facile de voir, par exemple, que la collection GF, Garnier-Flammarion, reprend un certain nombre de titres de son fonds classique, publié dans les classiques Garnier. Il est facile de voir aussi que la collection Idées de chez Gallimard, dirigée par François Herval, reprend certains titres et certains ouvrages publiés dans la collection, par exemple, des Essais de chez Gallimard ou la collection Blanche. Par conséquent, cela renouvelle les rapports des producteurs, c'est-à-dire des auteurs, avec les consommateurs, c'est-à-dire les lecteurs. Alors nous allons d'abord les étudier, ces rapports et ce renouvellement des rapports, avec les responsables, les directeurs de collection ou collaborateurs de ces collections. Ensuite, nous les discuterons avec les critiques. Donc commençons par les éditeurs et nous avons réuni autour de notre micro ce soir un certain nombre de responsables de collections de livres de poche. Michel-Claude Jallard, représentant 10-18 de chez Plon, François Herval, la collection Idées de chez Gallimard, Jean-François Revel, deux collections de livres de poche, Littérature chez Julliard, Liberté chez Pauvert. Claude Sohala, le livre de poche, tout simplement, et Pierre Buge, la collection GF. Je voudrais tout d'abord, messieurs, vous poser une petite question très simple, mais qui aidera à clarifier le débat. Je voudrais que chacun d'entre vous me donne, à son tour, sa propre définition du livre de poche. Michel-Claude Jalard.
C'est une question plus difficile qu'il n'y paraît, je crois.
C'est pour ça que je vous la pose.
Oui. En tout cas, il est évident que ce qu'il y a de commun à tous les livres de poche, c'est que le prix de vente est nettement en dessous de l'édition normale. Le livre de poche, en général, se situe entre 2 et 6 francs, et comme vous le savez, l'édition normale est en général au-dessus de 10 francs. Cela dit, il y a un certain nombre de collections de livres de poche qui chacune se caractérisent, et on peut dire que donc chacune des collections de poche a un peu sa définition,
sa propre définition,
son archétype, si vous voulez.
Oui, et la vôtre, alors?
La mienne, je peux dire, a une vocation, disons, culturelle. En ce sens que j'entends que c'est pas seulement une série de livres de poche, mais une collection qui obéit à un certain esprit, l'esprit de la culture contemporaine, de la curiosité contemporaine.
Jean-François Revel.
Il y a autant de livres de poche qu'il y a de collections. Au départ, je crois que c'est un phénomène d'ailleurs qui a existé aussi au XIXe siècle, à savoir qu'on sait très bien que quand on donne un produit en plus grande quantité, on peut abaisser le prix moyen de chaque unité. Je crois que le phénomène du livre de poche est un phénomène avant tout économique, lié au fait que, d'une part, la population s'accroît, et d'autre part, que l'instruction obligatoire a porté ses fruits, à savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui savent lire. La diversité même, alors, quant au contenu des collections qui sont représentées ici, montre bien qu'il est très difficile de donner une définition du livre de poche quant au contenu, à l'esprit, etc., puisque finalement, si l'on examine la situation de l'ensemble des livres de poche en France, on voit que tous les genres y sont représentés, n'est-ce pas ? Littérature, histoire, philosophie, science,
voyage,
littérature de simple divertissement, littérature sans prétention littéraire, si j'ose dire, roman policier, etc.
Est-ce que quelques-uns des membres ici présents a quelque chose à ajouter justement à cette définition qui me paraît enfin très générale et par la même très exacte de Jean-François Revel ?
Non, pas du tout. Je non, vois, elle est plus de problème.
Exactement.
Un livre de poche est un livre à bon marché.
Par conséquent, le livre de poche, si vous voulez, a exactement la même définition que le livre ordinaire. La seule différence, c'est qu'au fond, il coûte moins cher. J'aimerais d'abord fixer un certain nombre de points. Je voudrais demander à chacun d'entre vous le genre, tout de même, de sa collection. Car justement, vous avez un certain genre, un certain public. Le premier des livres de poche, c'est le livre de poche, Claude Soilat.
Oui, oui,
il a été fondé en quelle année ?
En février 53.
Il correspondait à ce moment-là, donc, à quelle idée ?
Publier des romans. Des romans.
Quels romans ?
C'est-à-dire les 4 premiers romans qui ont été publiés, d'un choix assez éclectique. Il y avait Vol de nuit, de Saint-Exupéry. Il y avait Königsmark. Il y avait Un Cronin. Et il y avait Ambre. On a pris de l'extension et on a été vers des textes beaucoup plus difficiles, d'année en année. C'est-à-dire que c'est le public, si vous voulez, qui est assez exigeant, en fait, qui nous a poussé à augmenter et à choisir des titres d'un caractère plus littéraire. Vous avez la littérature, qui comprend un roman, poésie, essai. Vous avez les classiques, qui sont une grosse série dans notre collection. Vous avez les policiers, vous avez l'histoire, l'encyclopédie. Et nous allons avoir le mois prochain une nouvelle série qui s'appelle une série art, qui reproduira des grands textes sur l'art.
Quel est le prix moyen ?
Vous avez 3 prix actuellement, 2 francs, 3,40 et 5 francs, et bientôt 6 francs.
Je passe maintenant à la collection GF. Pierre Buche, vous dirigez cette collection. Elle reprend, elle, vraiment le fonds classique Garnier.
Pas seulement le fonds classique Garnier.
Elle a été fondée en quelle année ?
En juin 1964. Vous dites que nous reprenons le fonds Garnier, ce n'est pas tout à fait exact. Nous voulons publier les classiques du monde entier et tant s'en faut, il n'y a pas les classiques du monde entier actuellement dans la collection des classiques Garnier. Notre ambition évidemment est de publier les classiques que tout le monde connaît, ça certes. Nous commençons peut-être par cela, mais notre ambition est de donner ensuite des classiques qui sont bien moins connus, ce qui rendra d'ailleurs service à l'université à laquelle nous songeons, puisqu'il y a beaucoup de textes actuellement qu'on ne peut pas étudier parce que les livres manquent. Et notre ambition et de faire reconnaître des textes un petit peu oubliés. Alors, la présentation est extrêmement sérieuse. Nous avons voulu donner des textes très sûrs, avec, évidemment, le minimum d'appareils scientifiques, mais un appareil scientifique qui soit solide, sérieux. Nous cherchons à donner aux lecteurs, à notre public, évidemment.
Alors, justement, quel public ?
Le public des lycéens, le public des étudiants. Et, mon Dieu, nous ne détesterions pas d'avoir le grand public, il semble que nous commençons à l'avoir, car il y a dans les classiques des œuvres admirables qui paraissaient peut-être un petit peu rébarbatives, et notre souci est de fournir aux lecteurs courant, les quelques données historiques, les quelques connaissances historiques qui sont nécessaires pour avoir accès à l'œuvre avec fruit. C'est là notre but.
Vous publiez combien de titres par mois ?
Nous en publions 4 par mois, quelquefois 8, mais la moyenne actuellement est 4 par mois.
Quel est le tirage de chaque titre en moyenne ?
Au moins 40 000.
Au moins 40 000.
Au moins 40, même pour les antiques, car nous n'avons pas craint de mettre dans la collection...
Même pour les penseurs grecs de Prodicos à Thalès de Milet.
Et remarquez que ces titres marchent admirablement. Platon, par exemple...
Platon se vend bien.
Admirablement. Le théâtre d'Eschyle, nous le devons peut-être à Claudel, mais ça se vend admirablement. Ça nous a surpris quand cette édition se trouvait dans la solennelle collection des classiques Garnier. Ça se vendait avec infiniment de lenteur. Maintenant, je ne dirais pas que ça se vend comme des petits pains, mais pas loin.
Passons maintenant à une autre collection très spécialisée, la collection Idées. D'abord, François Herval, j'aimerais que vous me donniez, vous, alors votre propre définition de la collection Idées, non pas du livre de poche.
Les premiers livres d'idées sont sortis en janvier 1962, c'est-à-dire à un moment où le seul livre de poche existant en France était justement le livre de poche qui publiait que des romans. Idées a tenté pour la première fois de publier des œuvres non romanesques, c'est-à-dire uniquement des essais. C'était ça le point de départ d'Idées. Nous avons commencé avec deux œuvres très connues, avec Jean-Paul Sartre et avec Albert Camus, mais nous avons tout de suite essayé un inédit de Heisenberg, justement pour voir si le public s'intéressait uniquement à des œuvres déjà connues, déjà célèbres, ou si sa curiosité était beaucoup plus large. Et nous avons constaté avec plaisir que sa curiosité était très large.
Oui, je crois. Alors là, que le phénomène de la collection Idées est très particulier, c'est que cette collection, justement, qui choisissait un public tout de même restreint, il faut bien le dire, au départ, n'est-ce pas, a remporté immédiatement un grand succès. Enfin, je ne veux pas ici faire de compliments à la collection, mais je crois vraiment que vous avez eu même la surprise de ce succès. Vous tirez à combien, à peu près ?
À 40 000.
À 40 000
aussi. Parfois à 35 seulement, mais normalement, nous tirons à 40 000. Nous avons tiré certains œuvres à plus, mais la moyenne est de 40 000.
Et vous sortez combien de titres par mois ?
3 au moins.
Et dans ces 3 titres que vous sortez chaque mois, est-ce qu'il y a presque toujours un inédit ? Enfin, je veux dire, est-ce que vous essayez d'établir une proportion entre les textes ?
Ça dépend parfois justement des manuscrits qui arrivent, des traductions qui sont terminées. Là, il y a certains irrationnels qui est inévitable.
Oui, et par exemple, il y a là un phénomène que l'on pourrait observer et qui rappelle un peu le Platon de M. Birbuge. Est-ce que l'ère du soupçon, je prends, de Nathalie Sarraud, qui a été publiée dans les essais, n'est-ce pas, chez Gallimard, a immédiatement atteint un plus large public par la collection Idées ? Je veux dire, est-ce que là,
bien
vous
entendu,
avez... Oui, mais là, vous ne l'avez plus
largement.
Le constater.
Bien entendu, largement. Mais nous avons constaté ça à propos de chaque livre, n'est-ce pas ? Pour toujours prendre l'exemple du premier livre publié, là, nous avons des chiffres très clairs, vu que le livre a été publié il y a 3 ans. C'était le mythe de Sisyphe de Camus. Il est donc sorti en 1962,
dans la
collection Idées.
La collection Idées. Il était sorti dans la collection des essais en 1942.
En 1942. Oui. Bon, pendant 20 ans, donc, en édition normale, ce livre avait vendu 80 000 exemplaires. Depuis 3 ans et demi, nous sommes à près de 200 000. Et les 80 000 avaient été atteints, je ne peux plus vous dire avec beaucoup d'exactitude, mais au bout de 4, 5 ou 6 mois.
Jean-François Revel, passons maintenant à la collection Littérature, l'une des deux collections que vous dirigez chez Julliard, Liberté étant chez Pauvert. Littérature, elle, est également très spécialisée.
Moins que Liberté.
Moins que Liberté.
Si vous voulez, je dirais à la lumière de ce que mes confrères viennent de dire que nous nous trouvons en somme devant, d'une part, des collections que j'appellerais universalistes, qui d'ailleurs tentent à se subdiviser elles-mêmes en des sections, car le public a besoin d'être dirigé, et des collections très spécialisées, comme la collection Idées ou la collection Liberté de chez Pauvert. Et entre les deux, des collections qui, sans être rigoureusement spécialisées, obéissent à un certain esprit, dont parlait tout à l'heure Michel-Claude Jallard en ce qui concerne 10-18. Littérature aussi essaye d'obéir à un esprit, d'abord en ce qui concerne la présentation matérielle, car je crois qu'en France, tout au moins, c'était la première fois qu'on abandonnait, par exemple, la couverture pelliculée et que l'on faisait une couverture à l'anglaise, pour ainsi dire, n'est-ce pas, plus graphique, n'est-ce pas, moins illusionniste, si vous voulez, et plus graphique, et avec également une certaine tentative d'améliorer la qualité du papier, la typographie, etc., n'est-ce pas, car, nous l'oublions jamais, le livre est un objet et qui évolue très vite, et le livre de poche comme les autres. Ou le livre en format de poche, puisque l'appellation livre de poche est réservée. Alors, outre cela, littérature obéit un certain esprit dans ce sens que j'ai cherché à y republier très souvent des œuvres qui n'existaient même plus en édition courante, en dehors des œuvres complètes.
Oui, par exemple.
N'est-ce pas ? Oh, eh bien, par exemple, l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand.
C'était rare,
n'est-ce pas ? Enfin, il fallait aller chez les bouquinistes pour le trouver. Ou bien celui qui va paraître le mois prochain, La vie de Benvenuto Cellini. J'ajoute que dans ce cas particulier, l'édition en format de poche constitue un progrès par rapport aux anciennes éditions, car la traduction que nous allons publier est infiniment plus exacte que toutes celles qui avaient jamais été éditées en France. La plus courante était celle d'un nommé Lardanché, qui datait du 19e et qui était pleine d'inexactitudes et d'omissions, n'est-ce pas ?
Combien de titres publiez-vous ?
Deux par mois.
Et vous tirez à combien ?
À 20 000. Tirage donc, voyez-vous, déjà beaucoup plus modeste que celui de nos
confrères. Quel est le prix de chaque livre ?
4, 5 et 6 francs.
On peut dire tout de même que dans les collections de livres en format de poche, Jean-François Revel, la collection littérature est un peu, je dirais presque aristocratique. Mais ne prenez pas ce terme ni en bien ni en mal. Je veux dire par là que ces livres, que je trouve personnellement très bien présentés, dont j'aime l'élégance, dont j'aime la présentation, sont des livres qui effectivement font bonne figure sur un rayon de bibliothèque en apportant un complément de texte à des auteurs dont on pourrait avoir les œuvres presque complètes, par exemple, et pour lesquelles on ne les aurait pas. Et en cela, moi je suis très touché par cette collection littérature, mais je pense en même temps qu'elle concerne un public un peu plus restreint, peut-être.
D'ailleurs, le tirage le montre.
Et pour la collection Liberté.
Alors, collection Liberté, collection nettement spécialisée par conséquent.
Ce sont des pamphlets.
Elle se consacre, disons, à la littérature de combat. Pas seulement au pamphlet proprement dit, qui, lui, a explicitement le ton, disons, de l'attaque politique ou littéraire, littérature de combat, en y comprenant aussi bien des pièces de théâtre ou des recueils de dessins ou des pamphlets à proprement parler. Là aussi, grande spécialisation et aussi, plus même que pour littérature, révolution de la présentation, car la collection Liberté a une présentation qui est une sorte d'anti-livre de poche, si vous voulez, n'est-ce pas ?
Expliquez-vous un peu.
Eh bien, je veux dire que le livre de poche, dans tous les pays, pas seulement en France, essayait de donner une sorte d'impression de luxe, sans être du luxe, n'est-ce pas ? De donner une impression de brillant, de séduire. Or là, nous avons délibérément choisi du papier d'emballage, par exemple, pour la couverture, du papier Kraft.
Pauvreté franciscaine.
C'est cela. Et d'autre part, pas de couleur du tout, puisque tout est noir, n'est-ce pas ? Et un papier...
Mais vous ne voulez pas attirer ou aguicher le lecteur par l'extérieur, mais par l'intérieur, alors ?
Par l'extérieur aussi, car, je répète, un livre est un objet et il faut qu'il... qu'ils suivent l'évolution de la typographie et du graphisme d'une certaine époque.
La collection Liberté tire à combien ?
20 000 également.
Et vous sortez combien de titres ?
Deux par mois.
Quel prix ?
3 francs, prix uniforme. C'est-à-dire que vous achetiez... Que vous achetiez les 40 pages de la littérature à l'estomac de Gracq ou les 450 pages du Marx ou du Joseph de Maistre, vous les payez 3 francs de toute façon.
La dernière question que je voudrais poser à chacun d'entre vous... Quelle contribution, à votre avis, le livre format de poche apporte-t-il à la culture ? Michel-Claude Jalard.
Oui, justement, il y a une chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il me semblait que l'évolution du livre de poche allait de plus en plus maintenant de la réédition à l'édition même. C'est-à-dire qu'au départ, le livre de poche consistait surtout à reprendre des livres qui avaient eu une fortune certaine dans l'édition normale, qui avaient atteint un assez gros tirage, disons dépassé 100 000 exemplaires, et à prolonger ce succès par une formule à bon marché. Or, maintenant, la situation a un peu changé, et mes confrères et moi, nous efforçons de faire découvrir un public qui s'est habitué aux livres de poche, qui a pris l'habitude d'acheter des livres de poche, que donc le livre de poche a conquis, donc à faire connaître à ce public un certain nombre de textes qu'ils ne connaissaient pas déjà, mais dont nous estimons qu'il serait bien qu'ils le connaissent.
Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'après avoir acheté Ambre, si vous voulez, il y a 10 ans, il achètera Platon.
C'est ça.
Jean-François Revel ?
Je crois, n'est-ce pas, que une des grandes erreurs que l'on fait dans l'analyse du phénomène livre de poche est de croire que le public est allé d'Ambre à Platon. Je crois qu'il y a toujours eu tous les publics parallèles, que le public fait pour lire Platon est simplement très content de payer moins cher et que de ce fait, le public virtuel de Platon s'accroît, n'est-ce pas ? Mais on n'a pas initié le public à Platon en le faisant passer d'abord par Ambre, par Königsmarck, puis en l'élevant progressivement à travers Saint-Exupéry jusqu'à Platon.
Bon, c'est ce que vous dites, Jean-François Revel, mais n'êtes-vous pas optimiste en constatant cela ou en croyant cela? Est-ce que vous ne croyez pas non plus qu'il y a tout de même dans l'habitude, qui est un phénomène donc absolument de réflexe finalement, une raison pour que le lecteur qui a acheté un certain nombre de livres de poche continue de les acheter sans se préoccuper de savoir au départ s'il a affaire cette fois à un grand roman, disons, de divertissement ou à une œuvre de recherche.
Imaginez quelqu'un qui a vu Le Rouge et le Noir au cinéma. Bon, il veut connaître le roman. Il l'achète dans le livre de poche. Il ne passera peut-être pas d'emblée du Rouge et le Noir au penseur grec avant Socrate. Mais Le Rouge et le Noir va peut-être lui faire lire La Chartreuse de Parme. De La Chartreuse de Parme, il passera à Armance. Et il ira aux œuvres les plus difficiles qu'il n'aurait pas lues sans le livre de poche. Parce que le livre de poche lui aura révélé Stendhal, il viendra aux Mémoires d'un tourisme, il viendra à ce qu'il y a de plus difficile dans Stendhal.
Je suis tout à fait de votre avis, mais je pense que le phénomène n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Car il y a toujours eu des éditions très bon marché. On pouvait acheter le Phédon intégralement dans les classiques Hattiers pour 2 francs.
Ah oui, mais alors là, c'était vraiment trop rébarbatif. Vous voyez, c'était encore ce qu'il y a de bien dans le livre de poche, c'est que ce n'est pas rébarbatif, c'est très moderne, ce n'est pas scolaire. Nous, notre collection est sérieuse, voyez-vous, mais nous cherchons à déscolariser ces grands textes-là. Et il y a des gens de culture, je ne dis pas humble, mais un petit peu rudimentaire, qui n'hésiteront peut-être pas à lire ces grands textes dans une collection qui n'aura pas l'air pédante, pas spécialisée, comme par exemple la collection des classiques Garnier. Ça les met plein pied avec.
Il y en avait avant.
Est-ce votre avis, François Hervé?
Je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs virtuels, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui se disent « j'aimerais bien lire du Sartre ou du Platon ». Tant que ce livre coûte 1500 francs, ils ne sont pas sûrs de pouvoir le comprendre, ils ne risquent pas de l'acheter. Ce livre coûte maintenant entre 2 et 5 francs. Ils y vont.
Le risque est moins grand.
Il y a certainement beaucoup de gens qui ont découvert ainsi des auteurs qu'avant ils n'auraient pas lus. Et c'est quand même un progrès.
Et puis ces livres ne s'offrent pas de la même façon aussi. Pour aller chercher par exemple un classique Garnier, il fallait entrer dans une librairie, s'adresser à un garçon libraire qui pouvait être plus ou moins aimable, plus ou moins rogue. Il s'agissait quelquefois de gens qui n'avaient pas une très grande culture, qui pouvaient avoir une certaine timidité. Les livres de poche, là, s'offrent sur un présentoir. On les vend en self-service.
Ah, je suis très content de ce que vous venez dire, monsieur Pierre Buche, parce que justement, cela peut apporter une sorte de conclusion à notre débat avant d'écouter les critiques. Je disais au début de notre conversation que le grand phénomène du livre format de poche, c'était d'avoir renouvelé les rapports entre auteur et consommateur, mais pas seulement parce que l'édition était haute, parce que la présentation était différente, mais aussi parce que, disons, les moyens d'accès, ne serait-ce que matériels, n'est-ce pas ?
C'est capital.
Vous avez parlé des présentoirs que l'on voit sur tous les trottoirs.
Et on achète ça comme des cartes postales.
C'est cela, le renouvellement des rapports. Reste à savoir ce que valent ces rapports. Mais en tout cas, ils sont renouvelés et ce qu'ils vont donner, eh bien, vous avez pu déjà le constater par le nombre de lecteurs, nous pouvons le constater aussi par la connaissance des œuvres, par la réaction des uns sur les autres, mais il reste encore à les discuter et c'est ce que nous allons faire avec les critiques. Je remercie en tout cas vous tous d'être venus nous présenter ce soir en toute liberté et avec familiarité les problèmes de chacune de vos collections. La parole est maintenant aux critiques et je précise tout de suite que par critique, je n'entends pas seulement le critique professionnel, j'entends, disons, l'amateur éclairé. J'entends la personne qui peut donner son avis personnel et documenté sur la question littéraire du livre de poche. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni autour de notre micro, en plus des critiques littéraires de la semaine littéraire, je veux dire Luc Estan et Alain Bosquet, le chroniqueur de l'actualité, Bernard Pivot, qui aura son mot à dire sur la question, et deux invités. Les deux invités, c'est Léonora et Georges Charbonnier. Léonora, je vous donnerai tout de suite la parole, parce que je crois que vous avez quelques documents, disons, sur l'historique du livre de poche. Au cours de notre débat tout à l'heure, nous avons entendu que le livre de poche, Claude Soilat nous l'a dit,
était né en 1953, que la dernière collection née, GF, était en 1964. En fait, on a fait allusion plusieurs fois au cours de notre conversation au fait que des éditions populaires, des éditions très largement diffusées, existaient bien avant la création des livres en format de poche.
Oui, que pouvez-vous dire ? Je crois que c'est exact. Je crois qu'il y a une très forte tradition d'éditions populaires en France, puisque on nous dit toujours très couramment que les œuvres de Zola ou de Balzac se vendaient en feuilleton à bon marché, et que on a retrouvé, enfin en cherchant un petit peu, en faisant une petite enquête, on peut retrouver un très grand nombre de collections qui correspondent un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui le livre de poche. L'expression n'était peut-être pas exactement la même, elle n'était peut-être pas employée comme ça, mais il y a eu certainement tout de même une collection au début du siècle, autour de 1902-1904, chez Fayard, qui s'appelait la Bibliothèque universelle de poche, et dans laquelle il y avait toute une série de sections. C'était un livre qui avait été créé, d'ailleurs le Prière d'insérer le dit, pour être utilisé par les touristes et par les voyageurs. Et il y avait un certain nombre de sections qui publiaient des romans de mœurs de l'époque, de Cladel, de Paul Alexis, mais aussi des romans populaires et aussi des romans classiques. Alors, en dehors de ça, je crois que jusqu'à la guerre de 14, il y a eu la petite collection bleue de la Bibliothèque nationale qui publiait les classiques. Et puis, il y a eu, je sais, chez Gallimard, entre les deux guerres, deux collections qui s'appelaient la collection Succès et la collection Génie de la France. Je ne sais pas si vous l'avez connue les uns ou les autres, mais qui était à 4 francs et 5 francs par rapport à un livre qui se vendait à ce moment-là à 12 francs. Alors que, évidemment, les petites collections dont j'ai parlé avant se vendaient à 25 centimes à l'époque, au début.
Oui, alors ce qui était nettement
vraiment,
moins cher.
Oui, à 25 centimes pour un livre qui devait être autour de 4 francs, je pense.
Il y a eu également ces livres plats, vous savez.
Alors, il y avait également la Select Collection de Flammarion, qui était, oui, mais alors là, qui avait une dimension beaucoup plus grande, alors qui était avec une couverture illustrée.
Oui, c'était plutôt un format de cahier.
Un cahier, c'est ça. Mais dans lequel il y a eu, en effet, une très grosse vente, par exemple, des Copains de Jules Romain. Je crois qu'il est arrivé dans cette collection à faire à peu près 100, au-dessus de 100 000 exemplaires avant la guerre, des Bestiaires de Monterland. Enfin, on retrouve facilement un grand nombre de collections qui correspondent à l'idée d'édition.
Oui, finalement,
populaire.
Il y a une tradition.
Je crois qu'il faut remonter beaucoup plus haut. D'abord, Stock a fait de l'avant-garde pour un franc vers 1920, notamment toutes les traductions russes, dans de tout petits livres de 12 cm sur 8. Mais bien avant cela, Michel Lévy avait lancé une collection à 1 franc en 1870, où d'ailleurs apparut l'édition originale de Madame Bovary, en tout petit format et tirée déjà à 5 ou à 8 000 exemplaires. Et bien avant cela, pour les raisons politiques et de censure, en 1830-40 surtout, à Bruxelles, on publiait de tout petits livres où étaient tirés à 10 000 exemplaires Victor Hugo, Lamartine et tous les grands romantiques. Donc, venir nous dire que le livre de poche est né en 1953, il y a au moins un siècle de tricherie à dire cela.
Après ce tour d'horizon sur la tradition du livre de poche, qui nous prouve tout de même que cette culture dont nous avons parlé déjà au cours de notre conversation, cette culture était à la portée d'un certain public par des moyens différents peut-être, mais toujours qui correspondaient à des notions économiques, il faudrait savoir maintenant ce qu'est cette notion de culture. Car tout de même, nous avons parlé du renouvellement des rapports qui existaient entre les auteurs et les lecteurs. Il faudrait savoir si ce renouvellement remet en cause nos idées traditionnelles sur la culture. Georges Charbonnier.
Ce que je vois dans le livre de poche, c'est la fortune d'un mot, livre de poche. On ne le disait pas tout à fait avant, on le dit maintenant, et ça paraît pour beaucoup dans la réussite de la chose. D'autre part, les gens de loisirs. C'est une civilisation de loisirs qui fait qu'on achète le livre de poche. Alors qui achète le livre de poche ? Des gens qui ne pouvaient pas lire avant, ou qui pouvaient lire moins, ou qui pouvaient lire à un niveau d'information moins relevé. Alors, qu'est-ce qu'ils achetaient ? La littérature sentimentale des gars. Eh bien, s'ils lisent le livre de poche à la place, compte tenu de ce qu'on leur propose dans ces collections, c'est une chose tout à fait excellente. Maintenant, est-ce que ça représente la culture en formation ? J'en suis pas sûr. Il me semble que le livre de poche met à la disposition des gens de la culture accumulée depuis très longtemps. Est-ce qu'il est indispensable de se familiariser à notre époque très profondément avec les œuvres de Platon? Tout le monde paraissait s'en réjouir tout à l'heure. Je n'en suis pas sûr non plus. Je ne suis pas certain qu'il soit indispensable de travailler Platon à notre époque. J'aimerais beaucoup mieux que le livre de poche mette à ma portée, de moi, lecteur quelconque, ce qu'il est indispensable de connaître à notre époque. Alors, je voudrais que le livre de poche publie Lévi-Strauss, je voudrais que le livre de poche publie Guilbeault, je voudrais que le livre de poche constitue une initiation scientifique et un rapprochement de la pensée scientifique, parce qu'il ne faut pas se dissimuler que la culture à notre époque, c'est la pensée scientifique, ça n'est plus du tout la pensée littéraire, la pensée artistique telle qu'on l'a conçue jusqu'à maintenant. Ça l'est encore. Je ne dis pas que les arts sont morts, mais on ne les pense plus comme avant. Alors mettre à la disposition des gens Monterland, ben mon Dieu, c'est pas grave, ça n'est jamais creusé la honte. On leur vendait avant, on continue à le leur vendre, mais ça n'est pas la culture.
Luc Estan.
Je ne sais pas s'il a été observé un phénomène qui touche probablement, bien sûr, aux questions économiques, mais qui n'est pas purement économique. On a cru que c'était parce que le livre était bon marché qu'il avait ce succès. Pour moi, ça n'est qu'une des raisons. Il y a deux autres raisons. Quant à l'utilisation, d'abord, c'est incroyable le nombre de gens pour qui le livre, et j'en demande bien pardon, même à notre époque, surtout à notre époque d'industrialisation, le livre a encore un caractère sacral. Le nombre de gens qui sont intimidés pour entrer dans une librairie et choisir, ne serait-ce que parce qu'il y a des personnes très ailées qui viennent tout de suite leur demander qu'est-ce que vous désirez, et les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils désirent.
On n'entre pas dans une librairie.
Le livre de poche a entraîné le tourniquet. Bibliothèque de gare, oui, mais même à l'extérieur de la librairie ou quelque part, enfin, une espèce de, comment on dit en français, self-service, quelque chose comme ça, bien entendu qu'on dit que ça en français, non, self-service, oui. Bon,
Etienne n'est pas là, vous bon, pouvez y
aller. Alors, je n'ai pas voulu dire que oui, c'était une mauvaise chose.
Non, mais moi non plus, j'essaie de
je
voir...
Je dis simplement que la culture n'est pas intéressée dans le phénomène, alors, contrairement à ce que l'on raconte.
Bon, mais je suis en train de penser tout haut, je vais peut-être tomber dans vos eaux. Donc, il y a ça. Mais disons qu'a priori, ce sont des gens de bonne volonté, des gens qui auraient voulu peut-être autrefois déjà acheter des livres. Et puis la question du prix mis à part, ils n'osaient pas. Tout à coup, voilà, c'est à leur portée, ils le prennent. Bon. Alors après, l'autre sorte de curiosité, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Bien, certains pourront déjà avoir une espèce d'information, plus ou moins sommaire, mais enfin, des noms. Sur quoi ça démarre, toutes les collections des livres de poche? Ça démarre sur des noms déjà connus, des noms consacrés, des œuvres qui, à tort ou à raison, sont déjà bien digérées, ont eu leur succès. Les gens ont là une sélection toute faite. Ils avaient une sélection toute faite. Et je m'émerveillais en entendant tout à l'heure les directeurs de collection de leur optimisme pour tous filer maintenant dans les livres de poche, même des inédits, même des auteurs nouveaux. Ah, on va voir ce qui va se passer. Si je suis bien informé, j'entends du côté de l'édition, à laquelle j'appartiens un peu, et si j'enregistre les réactions des représentants en librairie, on constate un phénomène de saturation. Et qu'est-ce que c'est que ce phénomène de saturation? C'est qu'alors les gens ne sont plus du tout aussi assurés qu'avant d'avoir un bon titre à coup sûr. Alors, troisième plan, et qui est évidemment le plus sérieux, la culture. Je serais moins affirmatif que Charbonnier pour dire que c'en est fini de la culture littéraire et du goût des arts. Je crois que ça peut...
Non, j'ai peut-être été trop loin.
Oui, certainement.
Mais c'est plus l'essentiel. Quand on me parle d'un homme cultivé et que je constate qu'il ne connaît que Molière, j'ai pas... c'est pas un monsieur cultivé.
En effet,
or, on continue à dire un tel est un homme très cultivé parce qu'il a de vagues notions de littérature. Mais la littérature dans toute la culture, ça représente très peu de la pensée des hommes.
Oh non, là je ne suis absolument pas de votre avis. Je crois que la littérature a devancé les découvertes scientifiques parce que c'était une mise en œuvre de l'imagination et que ce sont les savants après qui se sont mis à avoir de l'imagination. Ils s'en réclament du reste et vous ne pouvez pas faire un plus grand plaisir à
c'est
un savant.
C'est une concession qu'ils font pour être aimable.
Non. Si. Ils ont un besoin éperdu de communiquer. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Mais ce que je veux dire, pour ce qui est de la culture, donc, si vous voulez bien, on va trouver un terrain d'entente et on va dire que l'homme cultivé, aujourd'hui, il faudrait qu'il ait les deux sortes de cultures. Enfin, il faudrait qu'il y ait une coexistence pacifique ou dynamique entre la traditionnelle culture littéraire et cette culture en train de se faire, très difficile à absorber, du reste parce qu'elle va vite, qui est la culture scientifique. Mais, je viens d'employer une expression, même dans l'ordre de la culture littéraire, est-ce qu'il y a culture simplement par digestion de ce qui est acquis, entériné, à quelque niveau que soient les œuvres qui fournissent l'aliment, ou est-ce qu'il y a également culture avec ce qui est en train de se faire perpétuellement à partir de ce qui existe, autrement dit, la littérature vivante? Où vont en être les gens? Ils sont peut-être très, très désemparés.
Ah, ils seront comme vous et moi, obligés de prendre la responsabilité au moment où ils font une lecture. C'est ça. Alors, ce sera plutôt une chose excellente.
Mais la culture, Georges Charbonnier, ce n'est pas prendre ses responsabilités, c'est-à-dire faire un choix.
Mais c'est bien
faire un choix et avoir une certaine curiosité. Or, il n'y a plus de curiosité comme il y a
Platon, il ne risque rien, mais c'est très bien quand ils vont prendre des risques. Attendons ce moment.
Mais Raymond Aron et Rostand sont aussi publiés en livre de poche, il n'y a pas que Platon.
Moi, je trouve que
Lévi-Strauss est au programme de la collection 18. Je suis férocement pour le livre de poche. Question culture, je ne vois pas pourquoi nécessairement l'ouvrier d'aujourd'hui pour qui ces choses-là sont faites, le petit fonctionnaire, l'homme qui ne voudrait pas se permettre un livre avant, pourquoi il irait vers l'avant-garde, vers la littérature qui se fait? Il y a toujours un retard et je crois que finalement, grâce à quelques collections de poche, il y a moins de retard que jamais. Ensuite, je me dis ceci. S'il est vrai qu'il y a encore des éditeurs qui ont une certaine conscience, quelqu'un qui peut, grâce à la série noire jadis, et grâce aujourd'hui au livre de poche, gagner beaucoup d'argent et enfin avoir certaines coudées franches, cet éditeur-là peut se permettre aujourd'hui d'éditer un Rimbaud Nouvelle Manière, s'il y en avait un, dans une collection ordinaire, parce que finalement ça lui coûte moins cher que s'il ne faisait que cela.
Le dénominateur commun de votre intervention à la Bosquet, c'est tout de même le point de vue utilitaire, n'est-ce pas?
Eh bien,
il y a le point
absolument.
De vue utilitaire dans la culture. Reste à savoir si ce point de vue a droit de cité, encore une fois, dans cette conception que nous pouvons avoir de la culture. Pour moi, la culture n'est pas utilitaire. Sans ça, ce n'est pas de
non,
la culture.
Non, mais Vrigny, il y a une erreur dans ce que vous dites. Pourquoi faut-il que le livre soit une chose sacrale ou sacrée, n'est-ce pas?
Dès qu'il est...
Oui, mais justement, mais je ne sais, mais justement...
C'est une constatation. C'est
oui.
Mais Alain, d'abord, enfin, mettons-nous bien d'accord.
C'est un vœu pieux.
Je suis, moi aussi, de tout mon cœur pour le livre de poche. Je me pose simplement les questions... qui vont
ah oui, il faudrait bien mettre ça au point.
À un certain moment.
L'Assemblée n'est pas contre le livre de poche.
Mais bien sûr.
Bon, ce que nous voulons débattre n'est pas de savoir si c'est utile à certains, si c'est utile objectivement, si c'est utile à tous, mais dans quelle mesure la culture est intéressée par l'existence et la vente du livre de poche.
C'est cela.
Autre problème.
Et ça dépend tout de même de notre idée sur la culture.
Je voudrais ajouter quelque chose quant au choix que fait le public parmi les collections de poche, c'est que très souvent ce choix s'exerce non pas dans la librairie, mais chez la personne qui a acheté les livres, parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens achètent des collections complètes de livres de poche. C'est-à-dire que, prenons par exemple la collection Idée ou la collection Littérature, lorsqu'elle a débuté, eh bien beaucoup de gens ont acheté régulièrement les deux livres par mois, parce que ça coûte pas cher, parce qu'au total ça ne fait jamais qu'une dépense, disons, de 8 francs. Eh bien, ces gens-là, ayant toute la collection chez eux, peuvent... au fond, démarrer la lecture de tous ces ouvrages, et ma foi, ils font leur choix, ils prennent ce qui leur convient.
Pour moi, la culture, encore une fois, n'est pas la connaissance, ni l'instruction, mais la recherche. De même qu'on ne visite pas un pays par voyage organisé, de même, à mon avis, on ne profite pas des arts, des lettres ou de la science, Georges Charbonnier, par voyage organisé. Il faut tout de même qu'il y ait une quête.
Je crois qu'il y a un rôle que peut jouer le livre de poche, qui est une sorte d'information, de complément. Si on prend l'exemple des 18 leçons sur la société industrielle de Raymond Aron, qui s'est vendu autour, je crois, de 80 000 exemplaires. On vous dit, c'est pas vrai, il n'y a pas 80 000 personnes qui ont lu ce livre parce que c'est trop difficile, elles ont dû juste l'ouvrir ou le regarder. Eh bien, moi je pense que s'il y a, par exemple, un étudiant en lettres, qui n'a jamais eu le goût ou la curiosité de se pencher sur des problèmes de sociologie moderne, et qu'il a lu Raymond Aron, ça lui a apporté une ouverture, un éclairage, une idée sur quelque chose à quoi il n'aurait peut-être pas pensé. Et il l'a fait parce qu'il l'a trouvé sur son chemin et qu'il l'a trouvé dans un tourniquet.
Oui, ce que vous dites là, Vrigny, est quand même très dangereux, parce que vous vous méfiez de la personne qui achète un livre en disant « je ne suis pas sûr que cette personne est qualifiée pour lire ce livre ».
Il ne fait pas confiance.
C'est vrai de tout, c'est vrai. Mais c'est également vrai au plus haut point. Les livres les plus chers, puisque vous en avez au livre bon marché, sont des livres de bibliophiles qu'on ne découpe pas, qu'on a comme cela parce que c'est numéroté, parce que c'est rare et parce que c'est très cher. C'est la même chose. Je crois qu'il faut faire confiance plus ou moins à la personne qui achète un livre. Alors, elle l'achète ou bien parce que ça ne lui coûte pas très cher.
Ce qui est tout de même, vous avouez, un mobile peu culturel.
Ben oui, mais peut-être que tout de même, n'est-ce pas, la bonne volonté fera que cette personne entrera dans le livre et le comprendra ou se demandera pourquoi elle ne comprend pas ce livre, auquel cas elle s'éduquera peut-être. Il y a une chance sur 1000, mais c'est déjà beaucoup.
Vous êtes pour l'éducation.
Mais je ne suis pas contre l'éducation. Pourquoi voulez-vous que je sois contre l'éducation? Je crois qu'il y a un seul danger, un grave danger dans le livre de poche. Il va peut-être y avoir trop de financiers, trop de gens dans l'édition qui seront habitués à des tirages de poche par le poche et par d'autres livres et qui désormais diront tout livre qui ne se vend pas à 10 000 exemplaires est un livre qui ne m'intéresse pas. C'est ça le grand danger, n'est-ce pas? Pour moi,
je me différencie de Roger. Enfin, c'est pas du tout ce que peut apporter, le droit de n'importe qui de courir sa chance du côté de la culture et donc d'aller vers un livre que peut-être il n'aurait pas trouvé ou probablement il n'aurait pas trouvé autrement, qui me fait question. C'est l'optimisme qu'on affiche que le livre de poche va pouvoir marcher comme ça indéfiniment. Je ne demanderais pas mieux que le livre de poche puisse toujours gonfler et tout absorber. Et alors, qu'est-ce qui se passera au bout du compte? Et il y aura saturation, c'est le terme que j'ai employé puisqu'on en voit déjà les signes. Et alors, un beau jour, justement, tout le monde pris de vertige, tout le monde voulant tout de suite avoir les tirages à au moins 10 000, 20 000, 30 000. Et allez donc, il n'y aura plus l'autre édition, sauf alors ça fera l'édition originale, 1000 premiers exemplaires, bon, et puis on verra que ça sera pas suffisant. Et alors il y aura un petit éditeur qui, avec des moyens très artisanaux, et simplement parce qu'il aime la littérature, au besoin avec une presse à bras, reviendra au livre en tant que livre, et c'est une aventure qui recommencera, mais je crois que pour ce qu'on avait espéré du développement du livre de poche, il y a un horizon, à mon avis, en partie bouché, non pas complètement nié. Les choses ne pourront plus être ce qu'elles étaient avant, parce qu'il y a eu le phénomène livre de poche, mais je ne crois pas que tout, comme le disent certains, ira fatalement vers le livre de poche.
Que pensez-vous de cela, Georges Charbonnier?
Nous avons donné des plus et des moins partout, alors qu'au fond, je me dis qu'il suffirait d'essayer de décrire le phénomène. Savoir si c'est bon, si ça n'est pas bon... On peut en parler pendant des heures et puis on ne fera jamais d'inventaire exhaustif, ça n'est pas suffisant, on n'a pas les documents suffisants, on n'a pas les chiffres sous les yeux, on n'a pas pensé assez longuement à la chose, c'est pas tellement une bonne méthode. Et puis des plus, des moins...
Oui, mais parlez pour vous, moi j'y ai pensé longuement, je m'en excuse.
Et moi aussi, c'est un problème qui me préoccupe beaucoup. Dès qu'on est dans une maison d'édition, alors, je vous garantis qu'on en débat de ce problème-là. Ah,
je ne demande qu'à parler pour moi en disant que je ne veux pas mettre de plus et de moins. Je suis même ravi qu'on me demande d'être tout seul à prendre cette position.
Moi, je dirais qu'il y a quand même encore une chose en faveur du livre de poche depuis, alors peut-être un an, pas plus. C'est que quelquefois, lorsque l'éditeur risque un texte difficile... Ou alors un auteur qui n'est pas de grand public d'avance, n'est-ce pas? Je songe au poème d'Éluard que le livre de poche proprement dit, la collection dite livre de poche, a publié. Eh bien, il y a eu un certain tirage, si j'ose dire. On s'est demandé, est-ce que Éluard est mûr pour cela? Et alors, à ce moment-là, et cela depuis 2 ans, c'est tout à fait flagrant, on demande à des écrivains reconnus de la masse de donner... une préface, et qui est souvent admirablement faite pour la simple raison économique que cet écrivain est flatté d'écrire une préface pour 100 000 personnes d'avance, on le paye très bien et il fait un très bon travail. Je ne dis pas ça pour le Montaigne de Buteur, mais il y a d'autres exemples qui sont très bien, qui sont, disons, acceptables.
On ne dit pas Buteur, on dit comme Buteur de Montaigne.
Mais justement, oui, mais alors là, il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne très spécialement à Buteur.
Pourquoi vous en prenez-vous à Buteur tout d'un coup? Votre débat me passionne.
Oui, mais voilà pourquoi.
Étant très vivement aimant, passionnément
ça
Buteur,
rejoint de cette
je serais
chose.
Très heureux de savoir si vous en parlez mal.
Non, ça se réfère à cette chose qui, pour vous, n'a plus aucune espèce d'importance ou pas beaucoup, qui est la culture littéraire, puisque c'était ça qui était en cause dans le débat, et que justement, il peut arriver, on va mettre, c'est bon, a priori, hein, on met les essais, comme ça, en livre de poche. C'est magnifique, enfin, parce qu'on peut être de ceux qui trouvent que Montaigne a une très grande importance. Seulement, il va falloir faciliter la chose.
Oui, mais
comme
écoutez,
on dit.
Le, non.
Mais si,
alors parlons de choses un peu plus directes que Montaigne. Est-ce que, oui ou non, la pensée actuelle est intéressante? Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait la mettre dans le livre de poche?
Mais Olivier,
moi, ça m'embête,
Montaigne,
Platon.
La collection
Platon
idée.
Me canule.
Ah bon,
et encore,
ça,
quand je dis ça,
c'est
je suis...
Oui,
mais parce que vous la connaissez.
Je ne connais pas de gens qui aient lu Montaigne depuis A jusqu'à Z,
si,
qui aient lu Rabelais depuis A jusqu'à Z.
Pardon, pardon.
Une... Mais oui, vous, bien sûr.
Mais enfin, nous sommes...
Mais c'est une quasi-plaisanterie. Mais non, vous n'êtes pas nombreux, justement. Je suis ce lecteur naïf qui veut savoir ce qui se passe en son temps. Je me fous de ce qui se passait il y a 2000 ans. Je pense que les gens de mon temps sont plus intelligents que ceux d'avant. Je veux savoir ce que leur intelligence actuellement secrète. Je crois au progrès. Je crois que l'esprit humain ne cesse pas de progresser. Je m'en fous de ce qu'on pensait il y a 2000 ans. Je veux savoir ce que l'on pense maintenant et je vois qu'on continue à insuffler aux gens l'éternel Molière qui n'a pas de génie, l'éternel Platon qui rase tout le monde. Voilà ce qu'on continue à leur passer. Je voudrais qu'on leur passe de la pensée vivante. Alors est-ce qu'on leur donne oui ou non? Là, je veux bien mettre des plus et là, je veux bien mettre des moins.
Oui, ben figurez-vous, d'abord, on les leur met. Mais ils pourront peut-être très bien comprendre. Ils pourront peut-être comprendre parfaitement l'homme d'aujourd'hui. Lui,
mais je voudrais si... qu'on le leur propose oui. le plus vivement
mais,
possible.
Oui, mais qu'ils connaissent d'abord Montaigne, ça leur facilitera bien des choses, parce que Montaigne n'est pas seulement
mais
l'homme
je n'en
d'hier,
crois rien,
c'est l'homme
temps,
d'aujourd'hui
je
aussi.
Je n'en crois rien, c'est du temps perdu, tout va trop vite maintenant, si on veut leur montrer la pensée actuelle.
Mais quelle pensée actuelle?
Ben oui,
je
justement. Ne crois pas que la littérature telle qu'on l'entendait il y a 500 ans est encore une fortune. Je n'y crois pas. Je crois que nous entrons dans une phase où on se répète, il faut se mettre à la faire autrement, ou rechercher comment elle est faite, il faudrait faire des études sur un plan tout à fait différent.
Oui, mais ça, c'est
mais
un,
alors,
c'est
attendez,
un
laissez-moi
point
finir,
de
laissez-moi,
vue.
Ben oui, c'est un point de vue, mais alors laissez-moi, laissez-le-moi exposer complètement. Il y a en ce moment un domaine où les sciences sont très intimement unies à la littérature de conception classique, celle dont nous avons tous parlé tout à l'heure, c'est le domaine des sciences humaines. Ne pensez-vous pas que dans ce domaine, précisément, grâce aux sciences humaines, on pourrait vraiment élever les gens? On pourrait vraiment leur proposer des problèmes, les initier à la science en gardant tout ce qu'ils aimaient de la littérature. Alors, j'ai envie de dire qu'il faudrait les inonder.
Mais comment donc? Les gens sont déjà pourris de psychanalyse, par exemple. Ça a remplacé très avantageusement la vieille et très infirme analyse psychologique. Et ainsi de suite. Et également, l'ethnologie. On va beaucoup mieux connaître les hommes une fois qu'on saura que...
Il faut.
Mais oui, mais enfin,
nous, il faut, mais ça n'exclut pas. Voilà, toute la différence entre nous, c'est que vous croyez,
oui, par où
vous
aller
croyez devoir exclure.
Mais non,
moi,
mais non,
je
mais
veux
non,
enchaîner.
Je ne voudrais pas exclure. Je me dis une
vous
vie humaine.
Vous avez tout de même exclu un certain nombre de
oui,
noms
parce
tout
que
à l'heure.
Je... Oui, parce mais... que j'ai dit. Oui, je suis tout prêt à garder toutes ces responsabilités et à mettre d'autres noms avec. Ça ne me dérange pas. Je me dis qu'une vie d'homme est courte et qu'en un temps limité, il faut apprendre beaucoup. Oui ou non? Faut-il que j'apprenne
pourquoi
Platon?
Pourquoi apprendre beaucoup, mais... Georges Charbonnier? Pourquoi
mais
apprendre
parce que
beaucoup
si mon esprit
pourquoi ne... cette vocation encyclopédique de connaissance? Et en quoi l'encyclopédie de la connaissance correspond-elle à une connaissance de soi et donc à un progrès humain? Alors c'est là où je ne suis pas du tout d'accord.
Non,
justement,
d'accord.
Cette masse de connaissances que vous prétendez entonner dans les individus, leur faire
engurgiter,
mais en quoi est-ce un progrès de l'esprit? Mais pas du tout, c'est tout le contraire. J'aimerais mieux un homme qui ne lise qu'une chose, qui ne découvre qu'une chose dans sa vie. Et vous l'avez dit, la vie n'est pas longue, Georges Charbonnier. Pour découvrir une chose dans la vie, il faut déjà pas mal intelligent.
Montaigne.
Mais une chose, de la vie, de ce phénomène de la vie que personne n'a pu nous expliquer, même en notre temps.
Il n'y a aucune exclusive contre les sciences humaines. La création d'une collection comme idée correspond à cette tendance. Lévi-Strauss est au programme de 18.
Je n'ai pas fait d'exclusive, j'ai souhaité
pouvoir se généraliser. Qu'est-ce qu'il vous faut?
Non, j'ai établi des préférences. Et vous appelez exclusive le résultat de préférence. J'ai dit ma vie est courte, j'ai le temps, j'ai un temps limité. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne d'abord? Je me demande s'il faut que j'apprenne d'abord. Et j'ai dit oui, le mot apprendre n'est pas si mauvais après tout. Qu'est-ce qu'il faut? Ça explique bien en fond ce que je veux dire.
Lévi-Strauss avant Montaigne.
Mais je
comprends mieux Lévi-Strauss quand j'ai lu Montaigne.
Lévi-Strauss avant Montaigne.
Non, Montaigne, je comprendrais.
Et Merleau-Ponty avant Molière.
Mais c'est pas la même rapport. C'est pas le même comique.
J'entends bien que c'est dans un ordre différent, mais je pense que la philosophie de mon temps, la pensée scientifique de mon temps, c'est bien plus important que l'ancienne pensée. Si l'ancienne pensée... Oui, l'ancienne pensée, gardons les mots. Eh bien, quand on a 14 ans, il faut s'y mettre, quoi. C'est pas à mon âge.
Nous avons parlé de littérature dans le livre de poche et non pas de science et non pas de philosophie.
Je suis le lecteur quelconque de vie courte, c'est-à-dire n'importe lequel, parce que qu'on meurt à 40 ans ou qu'on meurt à 100 ans, il n'y a pas une bien grosse différence. Hein? Et par conséquent, il faut apprendre l'urgent. Il faut que l'esprit se dirige vers l'urgent. Est-ce que l'urgence, c'est Molière et Platon? Ma réponse personnelle est non. Ça n'est pas une exclusive, c'est une préférence que je formule. C'est pas la même chose.
Tous ensemble, on va fonder une collection de poches revolvers si ça continue.
Si ça continue, Bernard Pivot. Mais il faut mettre un terme à notre discussion. La culture, elle, continue, bien sûr. Et en faisant la part des excès où a pu nous porter la passion de chacun, reconnaissons les avantages que représente la diffusion de la culture, la diffusion des connaissances littéraires ou scientifiques, les dangers aussi. Et soyons sûrs que la culture, elle forme un tout. C'est la pensée vivante, certes, mais la vie n'est pas l'apanage d'une époque, encore moins d'une société. La vie, c'est le privilège des hommes et des hommes de génie.
La Semaine littéraire, magazine de l'actualité, romans et poésie. C'était une émission de Roger Vrigny. Avec la collaboration aujourd'hui de Alain Bosquet, Luc Estan, Bernard Pivot et la participation de Pierre Buge, Georges Charbonnier, François Herval, Michel-Claude Jallard, Jean-François Revel, Claude Soala et Léon Nora. Assistante Nicole Fuyaume. Réalisation Georges Gravier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 février 1965.